Décryptage, Marie Cazadebé.
Le Mexique a 45 jours pour freiner les flux de migrants qui tentent de rejoindre les États-Unis, sans quoi Washington pourrait mettre à exécution ses menaces et taxer les produits mexicains. Alors, conformément à l'accord conclu entre les deux pays, des milliers de policiers et militaires mexicains ont été déployés à la frontière américaine, ainsi qu'au sud, à la frontière avec le Guatemala, et les États-Unis ont accéléré les renvois de migrants vers le sol mexicain. Dans Décryptage, nous allons nous demander à quel point le Mexique se fait dicter sa politique migratoire par le géant américain. Pour quel résultat? Le Mexique ne risque-t-il pas de se retrouver seul face à un phénomène qui concerne toute une région? Nos invités vont nous éclairer. Bonsoir James Cohen.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut du Monde Anglophone à l'Université parisienne Sorbonne Nouvelle. Et nous sommes au téléphone avec Emmanuel Pérez Tisserand. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne à l'Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste des États-Unis et de sa frontière avec le Mexique. Depuis plusieurs jours, des images prises à cette fameuse frontière suscitent l'indignation. Celle des corps d'un migrant salvadorien et sa fille de 2 ans noyée dans le Rio Bravo. Et celle de 2 femmes et une fillette arrêtées par des membres de la garde nationale mexicaine au moment où elles essayaient de traverser le fleuve. James Cohen, quelle émotion a suscité cette dernière image au Mexique? L'image de ces arrestations?
Écoutez, je peux difficilement vous parler de l'état de l'opinion au Mexique. Je peux vous dire que tous ces événements montrent à quel point le gouvernement mexicain et l'administration en particulier du président López Obrador est confronté à une épreuve, à une très dure épreuve. Parce que, en principe, ce gouvernement, qui est un gouvernement de gauche, essaie de défendre quelques principes de respect des droits des migrants. Et l'État mexicain est en train d'être poussé dans ses retranchements parce que, en gros, l'administration Trump les oblige à réprimer les migrants ou en tout cas à donner plus de signes que d'habitude de le faire et en les empêchant activement de traverser vers le nord, chose qu'on n'avait pas vue auparavant.
C'est ça qui a pu choquer finalement dans cette image, que les arrestations se déroulent si près de la frontière, même avant qu'elles soient franchies.
Oui, il y a des dispositifs qui existaient déjà bien avant López Obrador, qui avaient pour fonction, théoriquement en tout cas, d'empêcher les traversées vers le Mexique, côté sud, côté frontière guatémaltèque. Mais maintenant, apparemment, Trump veut du show, veut du spectacle côté nord aussi. Il a déjà suscité pas mal et maintenant il oblige les Mexicains à en faire autant.
Emmanuel Pérez Tisserand, plus largement, quel débat provoquent au Mexique alors ces mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre, on le dit, d'un accord signé, le Mexique a eu le bras clairement tordu par les États-Unis pour signer ce fameux texte. Quel débat provoque-t-il?
Alors oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on voit le débat apparaître. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette séquence, c'est que tout d'un coup, on se met à parler du Mexique comme un pays et pas seulement comme un décor de passage d'où viennent ces migrants qui vont vers les États-Unis. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, enfin d'ailleurs, ce qui est montré par ça, c'est que par exemple, on parle maintenant du Rio Bravo. Avant, on ne parlait que du Rio Grande, c'est le même fleuve, mais il n'a pas le même nom, qu'on soit aux États-Unis ou au Mexique. Et donc là, on parle du Rio Bravo parce qu'on parle du point de vue mexicain. Effectivement, il y a eu ce chantage aux tarifs douaniers. Trump a menacé d'augmenter d'abord de 5%, puis à terme peut-être de 25% les produits importés du Mexique, qui sont en fait très dangereux pour les deux économies. Donc je pense que là, c'est une mesure qui fait débat dans les deux pays. Et effectivement, du coup, ça incite le Mexique à montrer son action. En fait, il y a déjà un certain nombre de mesures, comme disait Jim Cohen plus tôt. Il y avait déjà des mesures qui étaient en place pour surveiller la frontière, même pour préparer les demandes d'asile au Mexique. Mais ce qui a été mis en place de manière un peu précipitée avec cet accord, c'est le déploiement de la garde nationale, qui était en fait un projet du président López Obrador, qui est donc a été élu il y a 1 an, effectivement, un gouvernement de gauche qui essaye d'incarner l'alternance d'autres projets et une forme de valeur humanitaire. Et en fait, cette garde nationale n'était pas du tout prévue pour adresser les problèmes de l'aide de l'immigration, mais pour des problèmes de violence, notamment liés au trafic de drogue. Et donc là, il y a plusieurs débats, mais un des débats, c'est le déploiement précipité de personnes qui n'étaient pas prévues pour cela, pour traiter ces migrations, sur le fait que donc ces personnes ne sont pas formées aux politiques migratoires et donc ça risque d'engendrer de la violence. Et donc c'est effectivement ces images qu'on a pu voir. Mais aussi, les autres débats, c'est que comme les États-Unis ont semblé imposer cette politique au Mexique, les Mexicains, enfin, en tout cas une partie de l'opinion publique mexicaine et une partie des politiciens mexicains ne voient pas pourquoi est-ce que le Mexique devrait payer, prendre en charge ses politiques qui ne font pas partie de ses priorités, alors qu'il y a bien d'autres priorités, notamment effectivement la lutte contre la violence, la lutte contre la corruption, qui faisait partie du programme de López Obrador.
Et c'est ce qui fait dire, par exemple, au président de la Chambre des députés mexicains que cet accord menace la souveraineté du Mexique et reflète la mentalité d'un pays colonisé, James Cohen. Est-ce que ces mesures vont vraiment à l'encontre de la politique migratoire que le président Obrador avait décidé d'engager en décembre 2018? Emmanuel Pérez Tisserand le disait, c'est le premier président de gauche.
Ce danger existe. Je pense que le Mexique pourrait être en train de céder sur le plan juridique. Pendant des mois, le discours était que sur le principe et dans la lettre de la loi, on ne va pas céder sur le principe de qui consiste à obliger le Mexique à se reconnaître comme tiers pays sûr. C'est ça l'expression
pays tiers
en français.
Oui.
Oui, pays tiers sûr. Et maintenant, il semblerait que sous le chantage de Trump, ils sont en train peut-être, de céder là-dessus en admettant une possible évolution de la loi mexicaine pour admettre ce cas de figure. Ce qui serait un recul, peut-être pas... Enfin, ce serait une bataille de perdu pour ce gouvernement de López Obrador, mais en même temps, c'est l'État mexicain qui est censé contrôler ses corps répressifs, et si la consigne consiste à dire qu'il faut traiter les migrants humainement et les aider à s'insérer, et bon... Le défi sera difficile, mais si c'est ça la consigne, on pourra peut-être éviter le pire des débordements et on pourrait éviter peut-être aussi, ça c'est un souhait que je formule, je sais que dans certaines villes du nord du Mexique, Tijuana en premier, il y a un risque peut-être de trumpisation de la vie politique locale avec les immigrés au milieu comme bouc émissaire, comme chez Trump, et c'est exactement ce que López Obrador ne veut pas. Oui. Donc je pense que la prise en main de la situation sert aussi à ça.
Vous parlez d'un discours plutôt humaniste chez ce président, donc qui est arrivé au pouvoir en décembre 2018. Écoutez-le fin mai, lorsque justement les États-Unis menaçaient de taxer les importations mexicaines, sans nouvelle de mesure de sa part pour empêcher les flux de migrants.
Je suis sûr que nous allons recevoir un soutien très important. Nous allons tous nous unir, nous les Mexicains, parce que ce que nous voulons, c'est défendre les intérêts du peuple mexicain, ainsi que le droit à la vie, le droit à une vie sans misère pour tous les êtres humains, y compris pour les migrants d'autres pays. Les gens ne quittent pas leur village pour le plaisir, ils le font par nécessité, par manque d'occasion, de travail ou à cause de la violence. Ici, c'est une question de fraternité universelle qui dépasse toutes les autres considérations.
Está por encima de otras consideraciones.
Et James Cohen, c'est ce discours humaniste qui gêne aussi Donald Trump. C'est ce qu'il lui reproche, une politique peut-être trop laxiste.
Je pense que Trump, il n'a pas vraiment tellement perçu ce côté-là de López Obrador. Tout ce qu'il a vu, c'est que Trump, que López Obrador fait tout ce qu'il peut. Et avec succès jusqu'à maintenant pour calmer Trump et éviter des débordements, éviter un conflit ouvert où le Mexique et López Obrador en personne seraient désignés comme l'ennemi. Le président mexicain ne veut pas de ça et il fait tout pour éviter le monstre de sortir de sa cage en quelque sorte. C'est ça un peu la politique. Il le dit ouvertement, c'est ça qu'il essaye de faire.
Emmanuel Pérez Tisserand, qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, l'ultimatum de la fin du mois de mai, ces menaces de taxes sur les importations mexicaines? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? En même temps, ça faisait effectivement des mois que le président américain menaçait de fermer la frontière. Qu'est-ce qui, selon vous, a marqué cette rupture et ces menaces?
Après, il y a plusieurs éléments qui l'expliquent, mais bon, on a quand même le contexte états-unien intérieur, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de lancement de la campagne présidentielle de 2020, et donc on a aussi une nécessité pour Trump qui n'a pas encore fait construire son mur, alors que c'était une de ses promesses, et donc il y a une mobilisation autour de ces thèmes. C'est aussi la question de la renégociation des tarifs douaniers qui est aussi à l'ordre du jour. Donc l'idée étant, pour le fameux dispositif à la frontière, de faire payer le Mexique. Donc je pense qu'il y a cette temporalité-là. Il y a aussi ce débat aux États-Unis même sur la question de la gestion des immigrants. Et en ce moment, c'est un débat assez important sur le sort qui est fait aux migrants, notamment les enfants isolés qui sont dans des camps que certains appellent de concentration. Donc il y a tout ce débat autour de la politique migratoire. Et donc c'est aussi une manière pour Trump de dire que c'est au Mexique de gérer cela.
James Cohen, c'est vrai que le président Donald Trump parle souvent... On a des images comme ça d'une vague migratoire qui envahit les États-Unis. Est-ce que vraiment les États-Unis vivent une situation préoccupante plus que sous Obama, son prédécesseur ?
Et si la question est de savoir s'il y a une urgence sociale absolue dans les pays d'origine, oui. Mais c'est ça pas ça que Trump reconnaît. Si la question est de savoir s'il y a une crise sécuritaire à la frontière sud des États-Unis, la réponse est non. Et même les militaires se demandent pourquoi Trump insiste tellement sur une mise en scène d'un état d'urgence à la frontière. C'est un débordement électoraliste qui ne correspond pas à la réalité. Et je dirais aussi que la menace des taxes sur les importations n'est pas à prendre spécialement au sérieux dans son contenu non plus. Enfin, il n'y a aucun entrepreneur aux États-Unis qui est pour. Le Parti républicain est contre. Trump a dû céder là-dessus en faisant semblant évidemment de ne pas avoir cédé, mais en laissant le temps. Mais ça serait tellement ruineux pour l'économie mexicaine et états-unienne en pleine année électorale. Je ne vois pas un scénario comme ça.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler jusqu'ici sont ces gens qui tentent de passer cette frontière entre le Mexique et les États-Unis? On ne parle pas là que de Mexicains.
On ne parle pratiquement plus de Mexicains. On parle surtout de ressortissants de trois pays de l'Amérique centrale, les trois pays du nord de cette région-là, et qui sont les pays les plus, en gros, les plus pauvres, où il y a le plus de violence sociale endémique. C'est-à-dire que nous avons affaire à des réfugiés de fait, même si très peu d'entre eux sont reconnus comme réfugiés. Ils viennent donc du Guatemala, du Salvador et du Honduras.
Le Honduras, d'où vient Alex? C'est un Hondurien, donc notre correspondant au Mexique a rencontré sur le chemin vers la frontière américaine. Écoutez-le.
Avec l'aide de Dieu, nous avons l'espoir que Donald Trump nous laisse passer. Je veux aller là-bas pour travailler, pour faire avancer ma famille. Si on ne nous laisse pas traverser la frontière, nous pouvons demander au Mexique de nous tendre la main. Non, clairement, si notre passage aux États-Unis ne peut pas se faire, j'aimerais bien travailler ici, mais pas rentrer au Honduras. Parce qu'y retourner, ce serait un échec. Tout cela n'aurait servi à rien.
Emmanuel Perez-Tisserand, quelle sorte de situation fuit les migrants que l'on voit tenter de traverser donc le Rio Bravo, si j'ai bien compris, comme on l'appelle?
Ça dépend du point de vue dans lequel on se passe, mais c'est intéressant de voir qu'on a effectivement les deux points de vue. Donc effectivement, comme disait James Cohen, c'est plus majoritairement des Mexicains, même s'il y en a, et puis il y a aussi des retours de Mexicains vers le sud, mais c'est principalement donc des migrants qui viennent et qui fuient à la fois des situations de violence dans les villes et qui sont aussi le résultat de politiques de mondialisation, en fait, de saisie de terre. On a des situations de réforme agraire, disons dites de modernisation, qui font qu'une série de gens sont privés de terre, de moyens de subsistance, qu'on a une migration très importante vers les villes, qui à leur tour donc, sont très grande croissance, sont dans des situations de grande violence et avec une instabilité politique. Et donc la conséquence aussi de mouvements qui ont lieu à l'échelle mondiale, c'est des compagnies multinationales qui se saisissent de ces terres et qui vont travailler dans des conditions vraiment très difficiles des travailleurs. Donc effectivement, comme on disait plus tôt, c'est et ce que vous reconnaissez aussi dans le discours de López Obrador un peu plus tôt, vous avez diffusé, c'est que on est dans une situation de détresse et de refuge de fait. Et en fait, ce qu'a demandé aussi López Obrador, c'est de l'aide à la communauté internationale, aux Nations Unies, pour ne pas être seul face aux États-Unis dans cette gestion de la crise migratoire.
Justement, James Cohen, on parlait tout à l'heure de la politique d'AMLO, comme on dit, López Obrador. Il a un plan de développement régional. Là, il a obtenu, en revanche, que les États-Unis l'aident financièrement pour ce plan.
y a apparemment un engagement un peu symbolique de la part des États-Unis, mais je vois pas les États-Unis, et surtout sur Trump. On l'a jamais vu spécialement chez les républicains ou sous les démocrates jusqu'à maintenant, et je vois pas pourquoi on verrait Trump s'enthousiasmer pour un plan de développement qui prendrait à bras le corps le problème de développement soutenable dans les pays d'origine, dans les pays de l'Amérique centrale. Ça je peux pas y croire. Et ça sera d'autant plus difficile pour le Mexique de fomenter ce genre de plan de développement régional qui concernerait aussi le sud du Mexique. Ça sera d'autant plus difficile que l'idée m'échappe pour l'instant. L'idée est bien les trois pays en question, les trois pays de l'Amérique centrale, sont gouvernés de manière autoritaire ou extrêmement corrompue, et avoir des partenaires pour un vrai plan de développement dans ces pays, ce serait compliqué à imaginer dans l'état actuel des choses.
On comprend que le Mexique se retrouve vraiment bien seul face à ce phénomène. Mmh. Il a donc 45 jours pour faire baisser les chiffres. On a parlé donc de 15 000 policiers militaires déployés au nord, 6 000 au sud. Et puis, les États-Unis, finalement, en imposant des barrières militaires au sud, est-ce que les États-Unis, James Cohen, ne sont pas en train de décaler même leurs propres frontières au-delà du Mexique ?
Oui, c'est un peu comme l'Union européenne, n'est-ce pas ? oui, il y a des parallèles, tout à fait. Et je pense que ce type de cette volonté de compter sur le Mexique comme État tampon qui participerait de la répression des flux venant de l'Amérique centrale, cette volonté est là depuis longtemps, et sous Bush déjà et sous la présidence de Calderón au début des années 2000, on a vu négocier des plans qui étaient en partie des plans de développement régional, mais qui étaient fondés aussi sur l'idée que il fallait surveiller la frontière et ne pas laisser les flux se développer trop. Jamais on ne s'est adressé au problème de développement des pays d'origine.
Finalement, le Mexique devient un peu une salle d'attente, là aussi, parmi les mesures. Il y a le renvoi des migrants qui auraient fait des demandes de visa aux États-Unis en attendant l'examen de leur dossier. Ils sont renvoyés au Mexique. C'est vraiment, finalement, le Mexique, c'est la succursale des États-Unis. C'est ça un peu la logique de Donald Trump.
De fait, c'est ça depuis quelques mois. Il y en a, et c'est assez mystérieux et anarchique, mais il y en a qui rentrent sur les territoires, qui arrivent à formuler leurs demandes sur le territoire, qui sont soit détenus, soit lâché dans la nature et en plein dépouillement. Ça existe aussi, on les abandonne dans des stations de bus, etc. Il y a tous les scénarios imaginables, et le pire parmi ces scénarios, il y a le pire des scénarios qu'on est en train de voir dans les centres de détention où les enfants sont laissés à l'abandon. Il y a juste pas assez de moyens pour entretenir tout ça. Bon, effectivement, tous ces scénarios existent à la fois.
Emmanuel Pérez-Tisserand, on entend tout à l'heure ce migrant hondurien qui me disait que s'il n'arrivait pas à atteindre les États-Unis, finalement il chercherait à travailler au Mexique. Est-ce que finalement le Mexique va pas se retrouver la nouvelle terre d'Eldorado de tous ces migrants venus d'Amérique centrale?
Alors ça c'est une question qui a un ancrage historique très lointain, c'est-à-dire la question de est-ce que le Mexique, dès son indépendance, se posait la question de comment attirer autant de migrants que les États-Unis pour pouvoir croître et se développer. Donc ça a une longue histoire, mais je pense qu'il y a cette volonté, en tout cas dans le discours de López Obrador et dans certains cercles politiques progressistes au Mexique, de effectivement profiter de cette opportunité aussi, à la fois ce discours humaniste, mais aussi essayer de d'utiliser ces travailleurs pour le développement du Mexique. Après, le Mexique est un très grand pays, c'est aussi un pays fédéral comme les États-Unis, et donc il y a une très grande diversité des situations locales. Et comme je disais aussi, le problème c'est d'avoir les ressources à la fois financières, politiques, humaines pour mener à bien. C'est-à-dire que l'accueil correct de ces migrants demande quand même un petit peu de ressources. Et il y a un grand nombre de problèmes auxquels fait face le Mexique par rapport à sa propre violence, le trafic de drogue, le trafic humain, qui rend la situation compliquée. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un espoir par certains du côté mexicain de pouvoir accueillir convenablement ces migrants.
Merci à vous deux pour cette émission. On a mieux compris ce qui se jouait entre les États-Unis et le Mexique, malheureusement sur le dos des migrants. Merci Emmanuel Pérez-Tisserand, historienne donc à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Merci James Cohen de l'Institut du Monde Anglophone. Et merci à toute l'équipe de Décryptage, Léonore Krenik, Emmanuel Sevin, Eugénie Ducré et Hélène Avril.